Quand j'étais petit, chaque année, je passais mes vacances d'été aux Antilles. Donc, je faisais un mois dans la famille de ma mère, en Martinique, et un mois dans celle de mon père en Guadeloupe. Donc on peut dire que j'ai eu une enfance pas trop dégueulasse. Hein. Une fois, juste avant d'aller en Guadeloupe, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans, j'ai séjourné quelques jours dans notre maison du Vauclin, en Martinique, juste à côté de la plage. Donc j'ai grillé au soleil pendant plusieurs jours là-bas, avant de retrouver ma grand-mère en Guadeloupe. Et je me souviens de la tête de ma grand-mère lorsqu'elle m'a retrouvé cramé jusqu'aux orteils. Elle a froncé les sourcils.
Faut pas faire ça, l'enfant.
Exactement. Et elle a engueulé ma mère. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon petit-fils? L'enfant est tellement foncé qu'il est bleu. Vous qui nous écoutez, vous dites peut-être que ma grand-mère était fâchée parce qu'elle trouvait ma mère négligente ou qu'elle avait peur que j'aie attrapé un coup de soleil.
Un cancer est vite arrivé.
Enfin, le cancer de la peau ne touche pas les peaux noires. Enfin, très peu. Mais c'est pas du tout ça. En fait, ma grand-mère était agacée parce que j'étais devenu trop foncé. Dans son esprit, avoir la peau trop foncée, ce n'était pas bien. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est un phénomène très courant dans la culture noire. On appelle ça le colorisme.
Noir is the new black.
Noir
is the new black.
The new black.
Bienvenue dans Noir is the new black. Salut Kevin.
Salut François.
Salut Mélanie.
Salut François.
Ça va?
Ouais, très bien.
Aujourd'hui, on va parler de colorisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le colorisme? Chez les Noirs, plus on est clair de peau et mieux on est perçu dans la société et dans la communauté. C'est quelque chose qui en fait remonte à l'expérience coloniale, lorsque dans la société esclavagiste, le fait d'être clair de peau permettait d'accéder à un statut social plus élevé. Ce qui faisait que par exemple, les esclaves qui étaient plus clairs de peau pouvaient accéder à des métiers tels que le nègre de maison, c'est-à-dire qu'ils évitaient le travail des champs, qui était beaucoup plus dur et beaucoup plus physique. Et en fait, c'est une forme de classification qui, aujourd'hui encore, est très présente dans la culture noire. Par exemple, on a une expression en créole, ça s'appelle « peau chapée », ça veut dire « la peau sauvée ». En fait, ça désigne tout simplement quelqu'un qui a la peau suffisamment claire pour échapper à l'horreur de l'esclavage et de la condition des Noirs très foncés de peau. Chez les Antillais, on a cette obsession du phénotype. On a toute une litanie de termes pour désigner les gens. On a les mulâtres, on a les chabins, qui sont des gens très clairs de peau. On a les capres, on a les coulis. On a toute une obsession comme ça de la race. Par exemple, si vous dites à ma mère que je suis noir, elle va vous regarder, elle va dire « Ah non, mon fils, il a des cheveux capres et il a un type nègre et légèrement indien. » Vous voyez, donc pour moi, le colorisme, c'est surtout ça, c'est cette espèce d'obsession un peu, on va dire, de classification, comme une taxidermie des humains. Donc, je sais pas, c'est quoi, vous, vos expériences un peu du colorisme, Mel, par exemple?
Alors, j'ai cette particularité, entre guillemets, que je suis métisse, donc je suis plutôt claire de peau. Ma mère est blanche et elle a vécu pendant plusieurs années à Abidjan. Et elle a travaillé comme étant pharmacienne à Abidjan. Elle m'avait raconté qu'elle vendait beaucoup de crèmes décolorantes à des femmes de tous les âges. Ça partait de l'adolescence, ça allait jusqu'aux femmes d'un certain âge. Et c'était un truc qui cartonnait. Elle me disait qu'elle en vendait plusieurs tubes par jour. Et en fait, c'est des crèmes qui sont à base d'hydroquinone, qui est un actif en fait qui...
Ça te dépigmente quoi?
Ouais, ça te dépigmente la peau. Et le problème, c'est que c'est cancérigène quoi.
Le meilleur de la nature au service de la beauté noire et métissée. Nos soins améliorent l'harmonie de votre peau, unifient le teint, intensifient l'éclat, estompent les taches.
Utilisé à très forte dose et sur une longue période de la vie.
C'est pas surprenant. Hein.
C'est cancérigène. Donc, quand tu disais qu'il y avait les peaux noires attrapent pas de cancer de la peau, sous certaines conditions, parce qu'en gros, il y a eu vraiment une espèce de génération qui s'est décolorée, notamment la peau du visage, la peau des bras, et qui après a.
C'est un vrai problème sanitaire. Hein.
Un vrai problème, ouais. Notamment à Paris, il y a des quartiers où on vend ça. On t'ouvre un carton, on fait « tu veux quoi ?»
Chez toi, dans ton quartier en plus.
Oui, voilà, 18e, represent. Mais du coup, il y a toute une industrie qui est basée autour du colorisme. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que les marques que nous, on achète en France proposent des lignes de produits dépigmentants et blanchissants en Asie et en Afrique qu'ils ne proposent pas en Europe et aux États-Unis.
Parce que ça ferait un bad buzz.
Bah ouais, parce que du coup, en plus, dans les publicités, c'est complètement, ils le disent, c'est « devenez plus blanc, le blanc c'est mieux », c'est très très ouvert quoi. Et du coup, c'est vraiment un phénomène dont s'est emparé Le capitalisme.
Ouais, je savais qu'en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup, on utilise beaucoup ces produits-là, effectivement, parce que c'est des peaux assez brunes, en fait.
J'ai lu un article à ce sujet, justement, sur un site qui s'appelle Quartz, très cool. Donc, l'industrie des clés éclaircissantes, il disait que ça représentait quelque chose comme 10 milliards de dollars dans le monde. Il y avait un autre chiffre intéressant, une étude qui s'est tenue à Lagos, donc au Nigeria, la capitale du Nigeria. 77% des habitants de Lagos utilisent ces crèmes éclaircissantes.
Wow.
C'est un marché qui concerne non seulement l'Afrique noire, mais aussi l'Inde, où la blancheur est très appréciée également. Les Antilles, évidemment, la Caraïbe, l'Amérique latine. Enfin, c'est un marché presque... Enfin, c'est un marché totalement mondial, quoi. C'est ça qui est assez effrayant et qui corrobore ce que tu dis, Mel.
Ouais. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Vous qui avez grandi dans des communautés peut-être plus noires que moi, vous pouvez peut-être m'expliquer, mais pourquoi une femme noire ou très foncée de peau, ou pourquoi un homme très foncé de peau, c'est moins bien? Même si, en enlevant tout l'aspect historique, parce qu'on dit souvent aussi qu'ils sont moins beaux, qu'ils sont moins désirables, qu'ils sont moins sexy. Et je me demandais si vous pouviez m'expliquer.
En fait, les catégories qui à la base étaient sociales, c'est-à-dire plus t'es clair,
plus t'as de chance dans la vie.
Voilà, plus tu te rapproches de la blancheur, plus justement t'as la chance d'atteindre le top, entre guillemets. En fait, c'est des catégories sociales qui ont été intériorisées par les racisés et qui sont devenues en fait des catégories ethniques
et esthétiques,
voilà, et des canons de beauté. Et c'est ça en fait le fond du sujet, c'est que on parle de colorisme pas pour faire de l'histoire, mais parce qu'en fait le colorisme est encore très présent aujourd'hui dans toutes les communautés de couleur du monde, et il se manifeste sous plein de formes différentes. Ça peut être des micro phénomènes comme des trucs un peu plus politiques dont on va parler, j'imagine, quoi.
Un des trucs les plus visibles, je pense, c'est pour les miss des pays d'Amérique latine, par exemple. Représentent pas,
clair.
Voilà, Miss Colombie, elle est souvent de type européen, les yeux plutôt clairs, la peau claire, les cheveux lisses.
Ouais, on peut parler aussi de ce qui se passe par exemple au Brésil, sur la sous-représentation des mannequins mulâtresses. On voit d'abord des mannequins blancs qui sont pourtant genre quelque chose comme 20% de la population, et ensuite on voit les mulâtresses, alors les noirs, j'en parle même pas, quoi.
Ouais.
Mais c'est ça, Gisèle Bündchen, le mannequin brésilien le plus connu, c'est Gisèle Bündchen, oui, c'est Adriana vrai. Lima, c'est pas des meufs avec des frisettes, quoi, c'est pas le carnaval.
Moi aussi j'ai une anecdote, mais c'est plutôt une anecdote professionnelle, en fait, en lien avec le colorisme. J'ai un métier particulier, je résume rapidement, je suis guide et je fais des visites thématiques sur les Noirs à Paris. Et quand je me suis lancé il y a quelques années, j'ai été contacté par une petite association d'Île-de-France, dont j'ai oublié le nom, et qui était intéressé par mes services, mais qui me disait que le terme de Paris noir, c'est un peu gênant quand même. et qu'en fait, c'était une association qui se revendiquait plutôt du métissage. Alors peut-être un Paris métis, un Paris créole, ce serait mieux pour eux. Puis bon, finalement, on n'a jamais travaillé ensemble.
Bizarrement.
Mais c'est marrant parce que je me suis vraiment aperçu qu'à certains moments, ça pouvait être une forme de coquetterie. De pas se revendiquer complètement noir, mais plutôt on pense aussi à nos origines qui viennent d'ailleurs, etc. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, on n'est pas noir.
C'est classieux, en fait, de pas être 100% nègre. Quand je dis nègre, c'est vraiment, je parle du phénotype nègre, c'est-à-dire d'être foncé de peau et d'avoir les cheveux... et d'avoir les cheveux crépus. Moi, je me souviens d'une anecdote aussi assez marrante, j'en rigole encore avec ma mère. À un moment, j'étais chez le coiffeur, genre, tu sais, sur le boulevard de Strasbourg, à Château d'Eau, là. Le coiffeur était en train de finir de me couper les cheveux. Et comme je vous disais, j'ai les cheveux capres, moi. C'est-à-dire qu'ils sont en gros, je suis un peu métissé avec un type indien, ce qui fait que j'ai pas exactement les cheveux...
Colorisme
crépus. Oui, j'ai pas exactement les cheveux crépus, on va dire. Et en fait, le mec finissait ma coupe et tout. Et une mère arrive avec son enfant de peut-être 12-13 ans pour le faire coiffer. Et le gamin s'assied à côté de moi. L'autre coiffeur demande donc à la mère ce qu'il faut faire pour son fils. Elle me regarde. Et elle dit « Ah, je veux que vous fassiez comme pour lui, que vous fassiez le même effet que vous faites sur ce monsieur juste à côté. » Et l'autre coiffeur a dit « Bah, c'est ses cheveux naturels, en fait. »
Oh,
et, j'étais mort de rire et je suis rentré chez moi tout fier. J'ai dit ça à ma mère en mode, devine quoi, devine ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on en rigole encore aujourd'hui en mode, ah, tu n'es pas nègre, tu es capre.
Après, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Kevin, le truc du métissage, moi, ça me fait toujours marrer.
Je pense que tu as des choses à dire.
Ouais. Pourquoi ? Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Les bébés métis, c'est vraiment les plus beaux. J'adore cette phrase, quoi, parce qu'en gros, ça recouvre quand même une espèce de fantasme qui est les bébés métis, c'est génial. À partir du moment où on sera tous, tu vois, si on aura effacé la négritude de nos gènes, on sera tous métis, ce sera trop bien.
Ce sera une sorte de fascination aussi au mélange interdit, entre guillemets.
Mais des deux côtés, aussi bien noir que blanc.
Mais oui.
J'ai pris une fois, là, il n'y a pas longtemps, le métro avec un couple américain interracial, et ils avaient un bébé métis de quelques mois. Et il y a des collégiennes, je sais pas quoi, espagnoles qui sont montées, elles ont vu le bébé métis, c'était la folie, quoi. Elles faisaient des selfies avec dans le métro, c'était chelou, quoi.
Ouais. Oh putain, le malaise, quoi. Moi, ça me met vraiment mal à l'aise, ce genre de tu vois, de dire le métissage, c'est génial, enfin tu as réussi à te débarrasser d'eux, quoi, tu vois. Mais je sais que ça part d'une bonne intention, comme très souvent avec le racisme.
Tu vois le mal partout.
Mais moi, je ressens comme une espèce de mise en valeur du métissage par rapport au fait d'être noir.
Au détriment, tu veux dire, du fait d'être noir, du coup.
Ouais, non, surtout que le mot métis, en fait, veut dire noir à la peau claire. Tu pourrais être la fille de ton père et de ta mère et être beaucoup plus foncé. Et ton métissage serait beaucoup moins vite en disant non, mais t'es pas vraiment métisse. Enfin, voilà. C'est plutôt quand c'est noir, mais que ça va vers le clair.
Ouais, c'est ça, exactement.
La famille de ma mère, c'est vraiment tous des chabins et des mulâtres. Donc, ils ont les cheveux assez. Ils ont pas les cheveux crépus, ils ont les cheveux plutôt bouclés. Ils ont la peau couleur, on va dire, entre caramel et café au lait. Ils ont les yeux verts, souvent. C'est un peu des Rihanna du pauvre, vous voyez.
Des Rihanna de Chelcher.
Ouais, ouais, ouais. Je me disais toujours, mes cousins, putain, toutes les filles, c'est vers eux qu'elles vont aller, parce que justement, c'est les chabins. Et dans ma tête et dans les catégories mentales qu'on a là-bas, ils étaient en haut du game, quoi. C'est un peu comme les blonds aux yeux bleus, finalement. Ici, quoi,
chez les blancs.
Voilà. Et comment ça se caractérise, le colorisme, enfin, c'est quoi les avantages que les gens plus clairs peuvent avoir par rapport aux gens plus foncés, au-delà du simple fait oh là là, t'as des beaux cheveux, et oh là là, t'as des beaux yeux, et t'as une belle peau. Est-ce que vous pensez que ça influe aussi dans ce qu'on peut obtenir dans la société ?
Sur les enjeux de séduction, déjà, ça joue. Puis,
même ici. Hein.
Et puis aussi, il y a les choses professionnelles, de prestige, de avec qui tu t'affiches, de qui peut occuper telle position. C'est pas tout noir ou tout blanc, justement. C'est pas ça au quotidien, mais c'est quelque chose qui a encore une certaine pertinence aux Antilles.
Traditionnellement, la personne qui était plutôt mulâtre, chabine ou autre, Carteron par exemple, comme Alexandre Dumas, était vue comme donc plus éduquée, plus intelligente, plus civilisée. Et inversement, la personne qui plus t'étais foncée, plus t'étais vue comme quelqu'un de bête, de potentiellement violent et de bon finalement qu'à faire des tâches basses.
Ouais.
Un exemple que je trouve intéressant qui fait un peu du colorisme inversé, puisque depuis le début on parle du privilège d'être plutôt clair, parfois c'est remis en question. Il y a le joueur de basket maintenant retraité Kobe Bryant qui a environ un an qui avait critiqué un autre joueur de son équipe qui s'appelle Jordan Clarkson en lui disant qu'il jouait comme un mec clair de peau. Et l'idée, c'était que ceux qui étaient foncés jouaient de façon plus virile, plus agressive, et que voilà, ceux qui étaient plus clairs étaient plus mous. Et il y a toute une question sur l'évolution de l'image de la NBA par rapport à Stephen Curry,
bien sûr, le super champion,
super joueur, qui est très clair de peau, qui est marié avec une femme qui est très clair de peau. Ils ont une gamine magnifique que tout le monde adore. Mais même sa façon de jouer, c'est un joueur qui ne dunk pas, qui est très adroit, qui a changé la façon dont on joue au basket. Donc il y a toute une question sur les clichés qu'on a.
Et c'est l'exact opposé d'un LeBron James qui va jouer très en puissance, très en force, où on va mettre en avant son côté très compétitif, très agressif.
Et aussi sur les joueurs en NBA aussi qui souvent se marient avec des femmes soit très claires, soit blanches. C'est un écrivain américain d'origine dominicaine qui parlait de ça, qui s'appelle Junior Diaz, et qui disait, mais faites googler femmes de basketteurs américains et vous allez comprendre ce que c'est la suprématie blanche.
Ouais, d'accord. Donc plus tu évolues dans le game et plus tu te maries avec Claire, quoi.
Bah, la femme blanche, du coup, dans ce cas-là, pour ces mecs-là, est vue comme une sorte de trophée, comme une sorte de signe d'ascension sociale. C'est ouais. un peu une forme de passing. Le passing, c'est quelque chose qui fait sur plusieurs générations. C'est genre, tu vas faire un gosse avec une blanche dans l'espoir que ton gamin sorte un peu plus clair, qu'il se mêle lui-même avec une blanche pour qu'il sorte plus clair, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le gamin, dans trois générations, soit tellement clair qu'il passe pour blanc. Et là, t'as passé la ligne, t'as littéralement passé la ligne.
Ouais, et du coup, y a aussi l'exemple de Beyoncé, qui est victime un peu d'une théorie du complot selon laquelle elle se serait fait éclaircir la peau pour acquérir son succès. Moi, je pense que c'est plutôt du Photoshop. Je pense qu'elle elle a une grosse tendance à être photoshopée, sûrement pas toujours à sa demande, notamment dans les publicités, où elle est très claire, elle a les cheveux blonds.
Si elle avait utilisé le bleach, l'espèce de savon dont tu parlais tout à l'heure.
Qu'on trouve à Château Rouge.
Exactement.
Je peux vous emmener.
Dans toutes les bonnes crèmeries de Château Rouge.
Je pense qu'on le verrait. Je pense qu'elle aurait. Il y avait Vybz Kartel, star du dancehall jamaïcain, ouais. qui maintenant est en prison à vie, mais qui continue à faire de la musique. qui s'est bleaché la tronche, je peux vous dire que ça se voit et c'est juste affreux, c'est effrayant.
Ouais, ça laisse des séquelles.
Ah ouais, carrément.
Après, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de faire vite fait jeter un petit regard sur Hollywood parce que il y a notamment Azealia Banks,
la rappeuse, hein.
Banks, la rappeuse, effectivement, qui soutient Trump. Elle est noire, mais elle soutient Trump. Elle a d'abord commencé sa carrière en dénonçant le colorisme d'Hollywood, en disant « Moi, je suis une femme foncée et c'est beaucoup plus difficile pour moi d'obtenir des contrats publicitaires, d'être prise au sérieux, machin. » Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the camera. À côté de ça, après, elle a commencé à se décolorer la peau, donc à se blanchir la peau avec des produits, et elle en fait la promotion sur son Instagram.
Wow.
Et quand les gens viennent, lui disent « Attends, tu défends la position des femmes noires à Hollywood, et à côté de ça, tu te décolores la peau », elle dit « Ah bah oui, j'ai cédé, et bah oui, c'est plus facile, et puis toi, de toute façon, t'es moche, c'est pour ça que t'es jalouse ». Elle est complètement passée de l'autre côté de la barrière, quoi.
Elle a fait du passing, elle aussi, alors.
Ouais, voilà. Pas le même genre de passing. Je pense que c'est l'élection de Trump qui l'a vraiment mise de l'autre côté, quoi. Après, il y a aussi l'exemple de Lupita Nyong'o, qui a joué dans 12 Years a Slave, un film de Steve McQueen, où elle jouait justement une esclave des champs. Donc Lupita Nyong'o, c'est une actrice qui est très foncée de peau par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et on peut aussi constater que depuis son Oscar, elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle.
Meilleur second rôle féminin,
ouais,
je pense.
Meilleur second rôle féminin en 2014. Et depuis, on ne l'a pas beaucoup vue. Alors que normalement, quand on a un Oscar, après, ta carrière commence à décoller, quoi.
Elle fait des voix.
Elle fait des voix. Elle a joué un personnage dans Star Wars où elle était complètement cachée sous de la 3D, quoi. Et sinon, elle fait des voix et elle joue dans des films indépendants, quoi. Et ouais. Donc, on peut se demander si elle était plus claire, est-ce qu'elle aurait eu une carrière différente ?
En tout cas, c'est quelque chose qui se dit souvent dans la communauté noire et surtout noire américaine. Que les actrices plus claires de peau, si j'ai bien compris,
c'est plus facile.
Voilà, ont plus de facilité à avoir des rôles. De la même manière que les blancs ont des rôles plus facilement que les noirs, ben, entre les noirs, il y a encore d'autres obstacles à franchir.
Il y a encore une lutte intestine derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est Tessa Thompson, qui joue dans le prochain film de Marvel, Thor Ragnarok. Elle a un rôle. C'est une fille qui est très claire de peau et il y avait eu une semi-polémique parce qu'en fait elle avait dit je me souviens avoir lu que j'avais été castée dans Creed parce que je suis claire de peau, mais cette idée que je suis dans cette position parce que Hollywood est raciste, que j'ai des rôles parce que je suis plus acceptable, c'est pas que ça me mette mal à l'aise, mais j'ai du mal à comprendre parce que je pense simplement que c'est pas vrai.
Ouais, c'est compliqué parce que en même temps elle a envie de dire que mince, elle j'ai quand même oui. du talent.
Elle dit je sais que le colorisme ça existe, mais moi j'ai réussi par mon talent. Elle a reposté un truc derrière en disant « Je suis consciente que le privilège, donc le privilège d'être claire, et le mérite peuvent coexister. »
Je pense qu'elle doit être dans une position un peu inconfortable à certains moments, puisqu'elle est justement dans une position intermédiaire. C'est pas parce qu'elle a un privilège par rapport à des filles qui sont foncées de peau qu'elle n'est pas désavantagée par rapport à une actrice...
À une blanche.
Voilà. Ouais. Ouais. Ça se joue entre elle et Emma Stone. Voilà. C'est peut-être Emma Stone qui aura le rôle.
Le point La La Land.
Voilà.
Sinon, Zoé Saldana, vous la connaissez ?
Bah, oui. La meuf de Avatar.
Ouais, c'est ça. C'est une fille qui joue beaucoup de rôles où elle a le visage peint en vert, en bleu, parce que c'est aussi la meuf.
Est-ce que c'est du Guardians of the Galaxy ?
Guardians of the Galaxy, ouais. You're a good-looking girl. You should try to be more nice to people. If we're
going to work together, you might want to try trusting me a little bit.
How much do you trust me?
Zoé Saldana, il y avait eu une polémique autour d'elle parce que c'est elle qui avait eu le rôle de Nina Simone. Zoé Saldana est claire de peau et Nina Simone ne l'était pas. Et donc, ils ont peint le visage de Zoé Saldana et ils lui ont mis un faux nez, donc une prothèse nasale pour imiter le nez épaté de Nina Simone. Et du coup, ça avait fait un scandale parce qu'en plus, c'était un film qui était produit par des blancs. Et du coup... Il y avait une controverse, il y avait même Ta-Nehisi Coates, qui est un auteur afro-américain assez connu et journaliste, qui avait écrit un article en disant que si Nina Simone avait été vivante au moment de faire ce film, elle n'aurait même pas été castée dans son propre rôle, parce que même pour les rôles de femmes noires foncées, on prend des filles claires.
J'ajoute qu'il y a un point où il est très fort dans l'article, il dit que, en fait... La vraie hypocrisie, ça vient du fait qu'on dit non, mais c'est pas grave, ça compte pas. Zoé Saldana, c'est une bonne actrice, c'est tout ce qui compte. Il répond, si Zoé Saldana avait été la plus grande actrice, la plus grande comédienne de notre époque, elle aurait quand même pas pu être castée pour jouer Marilyn Monroe. Donc, faut arrêter.
Ouais, il y a vraiment un biais, quoi. Et du coup, je voulais juste aussi rajouter qu'elle a récemment dit qu'elle était colorblind, qu'elle ne voyait pas les couleurs, et parce qu'elle avait joué dans beaucoup de films de science-fiction. Et que du coup, maintenant...
Dans le futur, ça compte.
Voilà, dans le futur, on n'a plus de couleurs et tout va bien.
On parle beaucoup des States parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup plus abordé, notamment grâce aux statistiques ethniques, que chez nous en France, où le colorisme, c'est quelque chose de très intériorisé. J'ai trouvé d'autres chiffres. Il y a une étude qui a été faite en Caroline du Nord sur un échantillon de 12 000 femmes noires qui ont été condamnées à la prison. Sur cet échantillon-là, les femmes qui étaient plus claires de peau avaient des sentences de prison 12% moins longues. Autre étude aussi qui montre que voilà, il y a vraiment un enracinement et une réalité. C'est pas seulement le colorisme, c'est pas seulement un problème voilà esthétique ou oh là là Hollywood, il se passe des trucs. C'est quelque chose de très très concret et de très politique et d'économique également. Autre étude donc, en 2006, l'université de Géorgie a montré qu'à diplôme égal ou même à diplôme inférieur, un homme noir mais plus clair sera préféré donc à un homme foncé de peau. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de très qui peut avoir une réalité très brutale parfois.
Tu disais que l'enjeu du colorisme n'avait pas des conséquences que sur des questions esthétiques. Y a un test intéressant qui a été fait une première fois, je pense dans les années 1950 aux États-Unis, par un chercheur afro-américain qui avait fait le test de la poupée, où il avait donné une poupée blanche et une poupée noire à des enfants afro-américains de 7-8 ans, et devait répondre à des questions, quelle est la poupée qui est belle, quelle est la poupée qui est méchante, et à chaque fois c'était effectivement la poupée qui est méchante, qui est moche, c'est la poupée noire, et la poupée qui est belle, c'est la poupée blanche.
Alors c'était des gamins noirs, quoi.
Alors que c'était des enfants noirs, qu'ils avaient complètement intériorisé ça.
Et surtout, le mec demandait également quelle est la poupée qui te ressemble. Et pourtant, ça, ils changeaient pas de...
Et ils choisissaient la poupée noire.
Et à chaque fois, ils étaient conscients qu'ils étaient noirs, ils étaient conscients que noir était problématique, ils l'avaient déjà intériorisé très tôt.
What do you think of that skin color?
I just don't like the way brown looks, because the way brown looks really nasty for some reason, but I don't know what reason.
Et dans les années 2000, on a reconduit les mêmes expériences. Et là, sur 21 enfants noirs, il y en avait quand même 15 qui choisissaient la poupée blanche comme étant la poupée la plus jolie, la plus gentille, la plus intelligente.
C'est énorme.
Mmh. Ouais.
Alors moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'ai vu des médias français parler de ce test en disant « Oh là là, les États-Unis, c'est vraiment horrible. Vous avez vu ce qu'ils pensent, les enfants et tout ?» Et je suis sûre que tu fais le même test en France.
J'ai lu le même.
J'ai l'impression que les résultats ne seraient pas nécessairement si différents.
C'est ça le problème avec ce truc-là, c'est qu'on a, c'est vraiment quelque chose qu'on a tellement intégré et au moins les États-Unis, ils ont l'avantage de pouvoir en parler de manière plus explicite.
Ouais, ils en parlent. Quoi. Parce qu'en France, tu vois, on a par exemple le phénomène des noirtes et personne, enfin, c'est pas un truc médiatisé, personne sait ce que c'est. Les noirtes, c'est en gros une manière d'insulter les femmes noires foncées. On les appelle les niafous ou les fatous. Et on dit putain, qu'est-ce qu'elles sont crades, qu'est-ce qu'elles sont moches, ah là là, moi je sortirai jamais avec elles.
Elles sont vulgaires.
Elles sont vulgaires. C'est une forme de sexisme spécifiquement dirigé sur les femmes noires. Il y a un terme qui a été inventé pour ça qui s'appelle le misogyne noir. Et en fait, c'est vraiment une espèce de violence. Qui a souvent lieu sur les réseaux sociaux et je pense aussi dans les cours de récré, dans la vie de tous les jours et dans les communautés noires, qui est pas du tout explicité dans la société en général. Et du coup, on s'en rend pas compte. Et ce qui donne des personnes qui vont écrire des articles en disant « Oh là là, vous avez vu le colorisme aux États-Unis, c'est vraiment horrible. » Alors qu'en France, tout va bien. Mais quand tu sais qu'il n'y a pas de page Wikipédia pour le mot colorisme en France, on croit qu'on va mieux, mais en fait, on va moins bien. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore identifié le problème.
On ne sait pas comment c'est ce travail.
Ouais.
Ben non, on est tous métis, Mélanie. Pas
besoin de... Non, tu parles de réseaux sociaux et de misogynie noire. Ça me rappelle un tweet que j'avais vu passer sur Black Twitter. Une meuf noire, évidemment, qui disait « Il n'y a que chez les femmes noires que lorsqu'une femme, en fait, a envie de séduire un homme noir, la première chose qu'elle doit se demander, avant même de savoir si, voilà, elle peut lui plaire ou quoi que ce soit, c'est est-ce que ce mec, en fait, sort avec des femmes noires? Est-ce qu'il préfère pas les femmes, justement, light skin ou carrément les blanches? Il n'y a que chez les noirs qu'on voit ça. Genre, tu vois, deux asiatiques, ils ne vont pas se poser la question. Deux blancs, ils ne vont pas se poser la question. Mais les noirs, c'est comme ça.
Ouais,
et c'est comme ça en France également.
Ouais.
Surtout.
Les femmes noires prennent la parole à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, les nouveaux médias féminins et féministes surtout. Et du coup, dénonce vraiment le misogyne noir et le fait que non, on ne peut pas dire à une femme parce qu'elle est noire foncée, t'es une noire, t'es une fatou, quoi. Moi, je pense que ça peut changer. Je pense qu'il y a énormément d'influenceurs qui font un travail de conscience. Mais tant que ce ne sera pas relayé par les médias et tant que les gens, quand tu leur diras, tu parleras de colorisme et les gens, la plupart des gens diront, je ne sais pas ce que c'est. On n'aura pas avancé, quoi.
C'est un truc qui est vraiment pas très, ouais, pas très connu, une thématique qui est pas très répandue. Mais il y a des trucs qui se font quand même, encore une fois, surtout aux States. Je pense qu'il y a des trucs en France aussi, mais par exemple, aux États-Unis, il y a des étudiantes qui avaient lancé un hashtag unfair and beautiful. Ça veut dire donc.
Pas clair et belle.
Ouais, voilà, parce que fair skin en anglais, c'est
la peau claire.
La peau claire. Ouais. Donc, du coup, unfair and beautiful, c'était pour promouvoir justement la beauté des femmes foncées. Il y a des magazines également qui se lancent. Toujours aux States, qui sont là pour promouvoir...
En France justement. Aussi, hein, Nothing But The Wax, magazine en ligne qui vient de se lancer, créé par des femmes noires et pour des femmes noires,
mais genre,
met en valeur la beauté noire.
C'est vrai, mais genre aux States, c'est genre, on va faire un magazine sur les dark-skinned, tu vois.
Et on va le dire.
Ouais, voilà,
on va le dire. Je voulais juste ajouter un petit truc où, en fait, en vrai, je suis d'accord avec toi, Mel, sur le fait que le colorisme touche plus, je pense, les femmes noires que les hommes noirs, dans la mesure où certains stéréotypes reliés à la noirceur de la peau sont parfois plutôt positifs, avec plein de guillemets, pour les hommes, sur l'animalité, la brutalité, et beaucoup moins
la virilité,
pour les femmes.
Ouais. Oh ouais, non, très clairement.
Ok, bon, l'horloge tourne, je crois qu'il va falloir se dire au revoir.
Noir is the new black.
Noir
is the new black.
The new black.
Salut Kev, salut Mélanie, à la prochaine.
À la prochaine.
À très
salut.
Vite.
Et puis du coup, les beaux jours, on commence là, donc faites gaffe à pas trop bronzer. C'était Noir et The New Black, à la prochaine, salut.
Bisous.
Arte Radio.
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 .com.